L'idée, c'est de se dire que l'organisation est un organisme vivant. Et comme tout organisme vivant qui fait partie d'écosystèmes plus grands, l'organisme qui vit à son plein potentiel est un organisme qui est constamment en contact avec son environnement, qui capte constamment les informations qui viennent de son environnement, les intègre et puis change en conséquence. Et donc la raison d'être elle-même est amenée à changer et à évoluer. Et donc on passe de systèmes assez rigides que j'ai connus quand je travaillais dans un grand cabinet de conseil, comme tu le disais, où je pensais que, ben oui, à un moment donné, le leadership qui fixe une vision à 5 ans, à 10 ans, et puis on crée un plan d'implémentation, et puis tout le monde... Sauf qu'entre-temps, le monde a changé, mais on tient bon, parce qu'on a décidé que c'était le plan. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois avoir une vision très claire. Donc à nouveau, le malentendu serait de dire « il n'y a plus de vision, tout le monde fait n'importe quoi ». Non, on a une vision très claire, mais constamment intégrer les apprentissages pour que cette raison d'être ne cesse d'évoluer en fonction de ce qu'on apprend.
Bonjour, Céline Pufardichvili, Look Sharp pour le podcast du C3D « Le sens et l'action ». Alors aujourd'hui, je voulais commencer en parlant de la métacrise climatique dans laquelle nous sommes tous, mais on m'a fait remarquer, à juste titre, qu'une crise, ça a un début et une fin. Et en effet, là, nous sommes face à un défi. Et ce mot-là est juste, mais il n'y a pas vraiment de solution pour revenir en arrière, donc à une situation climatique, et c'est le même sujet sur la biodiversité, qui correspondrait à l'époque pré-industrielle, par exemple, et qui nous sécuriserait tous. Aujourd'hui, nous pourrions juste, et je mets des gros guillemets à juste, mais en réalité, ce serait déjà énorme, donc nous pourrions juste limiter les effets des problèmes qui arrivent, nous adapter, et si on s'y mettait vraiment, rendre la situation moins critique pour ceux qui nous suivront et pour les plus démunis. Mais, et il y a un mais, on a le sentiment et même on fait le constat que nous sommes tous comme englués collectivement et individuellement par un système et par des freins sociotechniques. Et pourtant, il y a des moyens d'agir. Et heureusement, parler du comment, c'est l'objet justement de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont on peut agir en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que collaborateur d'une entreprise, parce que nous avons l'honneur de recevoir Frédéric Laloux, qui, avec son épouse Hélène Gérin, a fondé The Week. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors, The Week, c'est une vraie expérience à vivre dans son cercle professionnel, amical, familial, en 3 étapes, et ça chamboule. On y reviendra. Et en détail. Alors Frédéric, tu es un homme du monde, comme on dit, tu as étudié en Europe et aux États-Unis, tu connais bien l'homme, tu as étudié et fait du coaching, et tu connais aussi bien l'entreprise, tu as été associé dans un très grand cabinet de conseil international, et tu y as travaillé sur les transformations à grande échelle, tant dans l'industrie que dans les services, et sur le comportement organisationnel. On comprend d'où vient ton inspiration et d'où vient peut-être le fait que tu as été précurseur sur les sujets de transition en publiant Reinventing Organizations, A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness. Et ce qui m'a épaté quand j'ai re-regardé, c'est que c'était il y a 10 ans. Et 10 ans, je précise que le sujet du livre est toujours d'actualité. Donc Reinventing Organizations, c'est sans doute le premier ouvrage de vulgarisation pour inviter, comme son nom l'indique, à repenser les modèles. Et c'est précisément l'objet du C3D, d'inviter les entreprises à repenser leurs modèles d'affaires. Alors, première question, Frédéric. Aujourd'hui, où en est-on sur le front de la transformation des organisations?
Alors déjà, il y a beaucoup de fronts de changement. Moi, le livre, c'était vraiment l'aspect managérial, l'aspect gouvernance. Après ça, il y a tout ce qui a trait à la transformation écologique, les business models. Alors, au niveau management, gouvernance, je crois qu'on a parcouru quand même un beau chemin en 10 ans. Je me souviens qu'il y a 10 ans, on sentait déjà le mal-être au niveau du management. On était déjà très loin. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler dans le monde de l'entreprise, il y a plus de 20 ans, on était encore dans une ère optimiste, conquérante. Je me souviens à l'époque, par exemple, c'était le modèle de GE, de Jack Welch. Mm-hmm. Voilà, on avait compris le management. Il suffisait d'appliquer un certain nombre de recettes. Voilà, tout le monde voulait faire des MBA. Enfin, voilà, on croyait qu'on tenait le modèle. Et puis, il y a 10 ans, quand mon livre est sorti, c'était déjà une époque où on n'y croyait plus tout à fait. Quand je posais la question à un peu tous les dirigeants que je rencontrais derrière les portes fermées, en leur demandant Est-ce que vous êtes satisfait de votre management? Tous me disaient, ben non, c'est trop lent, c'est trop bureaucratique, l'engagement des collaborateurs est difficile, on fait face à des burn-out. Et ça n'a fait qu'empirer en 10 ans. Je crois que la grosse différence par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'il y a 10 ans, on ne connaissait pas d'alternative. Aujourd'hui, entre les entreprises libérées, mon bouquin, entre l'holocratie, la sociocratie, on connaît tout un ensemble d'autres modèles. Et là où moi, il y a 10 ans, j'ai peiné pour en identifier une douzaine d'entreprises que j'ai étudiées très en détail pour comprendre leur fonctionnement, et tout le monde me demandait à l'époque, comment t'as fait pour en trouver 12? Aujourd'hui, il y a pléthore d'exemples, de petites, de moyennes, et parfois de, pas encore de très grandes, mais de poches à l'intérieur de très grandes entreprises qui ont fait le pas. Et ce qu'on voit, c'est que presque à chaque fois, si on s'y prend bien, la réussite est au rendez-vous. Les collaborateurs s'épanouissent, les managers et les dirigeants s'épanouissent, travaillent moins parce que la charge est portée par la structure et les résultats sont au rendez-vous. Donc aujourd'hui, il n'y a plus à démontrer que ces nouvelles formes d'organisation fonctionnent. Et d'où parfois la frustration de se dire « mais pourquoi ça ne va pas plus vite ?» Alors qu'on a tellement d'exemples qui fonctionnent, et on a des exemples qui fonctionnent dans toutes sortes d'industries, on a des exemples qui fonctionnent dans des usines, on a des exemples qui fonctionnent dans la finance. Voilà, et puis voilà, ça dépend, c'est encore fragile, parce que ça dépend beaucoup des représentations, des schémas mentaux, des présupposés, des croyances que portent les dirigeants.
Oui, justement.
Il y a déjà longtemps, dans les années 60 du siècle passé, il y avait Douglas MacGregor qui parlait, il disait en gros, il y a deux représentations. Il appelait ça à l'époque la théorie X, la théorie Y, en disant ben, il y a une représentation qui est de se dire que les gens, fondamentalement, les collaborateurs, sont un peu fainéants, sont un peu tirés au flanc, sont un peu. Et donc, si on ne les contrôle pas, si on ne les cadre pas, ça va être le chaos. Et il faut avoir des incentives pour leur mettre un peu un coup de pied aux fesses parce que sinon ils ne vont pas se bouger. Donc voilà, c'est une représentation. Et donc, si on a cette représentation, ben, il faut des modèles très hiérarchiques, il faut tout un système de budget, etc., pour mettre le système sous tension. Et puis, il disait, il y a une autre représentation qui est que si on crée les bonnes conditions avec une raison d'être qui donne envie, les gens, ils vont casser la baraque, il faudra plutôt les freiner. Et voilà, c'est la théorie grecque. Et ce qui était fascinant, c'est que les gens se posaient la question, mais alors qui a raison? Est-ce que c'est la théorie X, c'est la théorie Y? Et en fait, la réponse, c'était, ben, les deux ont raison. Si tu pars du présupposé que les gens sont fainéants et que tu crées les structures pour les emprisonner et mettre le système sous tension, ils vont réagir en se rebellant et en refusant de jouer dans le jeu.
Bien sûr.
Si au contraire, tu crées les structures pour donner confiance, les gens vont aller vers la
en
confiance.
En fait, il y a du répondant dans les deux cas.
Dans les deux cas.
D'accord, donc... Et je voulais revenir sur le sujet de la gouvernance, justement, dans ton livre. C'est vraiment le gros morceau. Et tu as défendu l'autogouvernance comme modèle de société. Et peut-être, pour faire société, tu dis que l'entreprise n'a pas besoin de patron. C'est paradoxal. Comment est-ce qu'on peut avoir et partager une vision, finalement, s'il n'y a pas ce fameux leader visionnaire, si tu veux? Et toi, tu proposes de faire des organisations, des communautés de travail inspirées. Je trouve que la formule est très belle. Et tu parles du concept de l'organisation opale, justement. Alors, comment est-ce que ça marche? Si ce modèle X ou ce modèle Y, il faut déjà qu'il y ait un leader courageux pour laisser le champ.
Oui, tout à fait. C'est frustrant parce que quand on en parle, quand on parle d'autogouvernance, très vite, les gens partent sur une des fausses croyances. On se dit, ah ben alors, s'il n'y a plus de hiérarchie, alors c'est le bac à sable. Tu sais, justement, c'est les années 60, tout le monde a fumé des joints dans un coin, et puis, comment ça marche, les prises de décision, c'est du consensus,
sens,
alors on va parler pendant des heures jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Et donc, je me bats tout le temps contre cette image-là, parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'organisations qui fonctionnent avec d'autres modèles et qui sont hyper performantes, qui sont bien plus performantes, parce que tous ceux qui connaissent l'hiérarchie traditionnelle savent à quel point c'est souvent étouffant, à quel point ça contre-performant, à quel point on passe son temps à faire des rapports, des PowerPoint qui remontent et qui redescendent dans la hiérarchie. Donc on sait que ce modèle n'est pas très efficace.
Et le jeu, c'est de se planquer dans ce truc parce que voilà.
Exactement. Donc c'est faux de dire que c'est des organisations qui fonctionnent sans patron. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus de hiérarchie, de pouvoir fixe, traditionnelle, où je suis ton boss et donc j'ai du pouvoir sur toi, et puis toi, tu es la boss de quelqu'un d'autre et tu as du pouvoir sur d'autres. Et donc, c'est d'autres formes de gouvernance, mais qui existent avec autant de structures, autant de clarté. Ça reste très important de savoir qui peut décider quoi, comment, qui est responsable de quoi, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, à qui est-ce que je vais m'adresser. Donc, c'est loin du chaos qu'on imagine, mais c'est simplement des formes qui sont plus organiques, plus flexibles.
Et basées sur la confiance, l'expérience des gens, leur...
Oui, mais pareil, tu vois, sur la confiance, il y a souvent un malentendu en se disant, il suffit de faire confiance. Ben non, il faut, oui, bien sûr qu'on fait confiance, mais il faut aussi avoir des systèmes qui rendent transparent la performance, pour qu'on sache, et dès que la performance n'est pas au rendez-vous, pourquoi ça n'est pas au rendez-vous, qui est responsable, et on rentre en dialogue. Donc, souvent, on a une image un peu simpliste de ces formes d'organisation, et ceux d'ailleurs qui se plantent dans la transformation sont ceux qui ont une image un peu simpliste en disant « Ah, ben maintenant, je suis le patron, mais je ne décide plus rien. Bon, ben débrouillez-vous.
Oui. »
Et qui ne mettent pas en place d'autres formes de
structures. Et ce n'est pas très visionnaire non plus, ça, comme attitude. Alors, je voulais revenir sur le sujet de la raison d'être, parce que tu parlais avant le tsunami du sujet de la raison d'être en entreprise. Tu parlais déjà, il y a des années de raison d'être, alors tu appelles ça la raison d'être évolutive. Et ça veut dire que tu fixes et puis elle peut s'adapter, ou qu'est-ce que ça veut dire?
Comment alors, le mot ne vient pas de moi, au passage, c'est Brian Robertson qui parle de evolutionary purpose, de raison d'être évolutive. L'idée, c'est de se dire que l'organisation est un organisme vivant. Et comme tout organisme vivant qui fait partie d'écosystèmes plus grands, l'organisme qui vit à son plein potentiel est un organisme qui est constamment en contact avec son environnement, qui capte constamment les informations qui viennent de son environnement, les intègre et puis change en conséquence. Et donc la raison d'être elle-même est amenée à changer et à évoluer. Et donc on passe de systèmes assez rigides que j'ai connu quand je travaillais dans un grand cabinet de conseil, comme tu le disais, où je pensais que, il y a un moment donné, le leadership qui fixe une vision à 5 ans, à 10 ans, et puis on crée un plan d'implémentation, et puis tout le monde... Sauf qu'entre-temps, le monde continue à bouger, à changer. On tient bon, parce qu'on a décidé que c'était le plan. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut à la fois avoir une vision très claire. Donc, à nouveau, le malentendu serait de dire « il n'y a plus de vision, tout le monde fait n'importe quoi ». Non, on a une vision très claire, mais constamment intégrer les apprentissages pour que cette raison d'être ne cesse d'évoluer en fonction de ce qu'on apprend.
Oui, bien sûr, et en fonction du reste de l'écosystème et des organismes qui sont autour de
J'imagine
toi.
J'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent peuvent s'identifier, si on prend simplement un exemple, le cycle budgétaire annuel. Mmh. Okay, tout le monde le déteste, tout le monde... Et en général, à la fin de l'année, tu prévois le budget pour l'année prochaine. Vers le mois de mars-avril, tu t'es rendu compte qu'il y a plein de choses qui ont changé dans le monde et que ce budget, en fait, n'a plus vraiment de sens. Et pourtant, on continue à jouer le jeu, mois après mois, de comparer ce qui était projeté avec la réalité.
Et de stresser tout le monde.
Et on stresse tout le monde. Voilà. Et puis, il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est moins 2% ou plus 5%. Et tout le monde sait que ce budget est dépassé, mais on continue à... Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir des formes plus évolutives? Et à nouveau, l'idée n'est pas de tout lâcher, de prétendre qu'il n'y a pas de budget. Il y a besoin de certaines formes de prévision budgétaire. Mais comment est-ce qu'on peut rentrer dans un système qui est vivant parce que l'environnement change tellement vite que d'avoir un plan rigide à un an ne fonctionne plus?
Alors, si on vient maintenant sur le sujet plus large, parce qu'effectivement, là, on a parlé des sujets essentiellement de gouvernance d'entreprise. Et maintenant, pour répondre justement à cet énorme défi... De sauvegarde finalement du vivant. Il y a des freins au changement des organisations, évidemment. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des freins? Est-ce qu'il y a des freins premiers? Tu vois, on parlait de gouvernance, c'en est un énorme, mais avec le management, est-ce que c'est la finance et donc qui a to own, au sens avoir physiquement l'entreprise? Est-ce que c'est la compta et notre façon de compter ce qui ne compte pas toujours? Est-ce que c'est la pression actionnariale, justement la culture du leadership dépassée? Par quel bout tu dois prendre tout ça?
Ben c'est effectivement, ça me semble très multifactoriel. Et quand tu demandes à une personne, c'est quoi la raison, voilà, différentes personnes vont te citer différentes choses. Ah, c'est la pression des marchés. Ben non, c'est la culture. C'est... Et donc, je pense que voilà, tout ça y participe. Et moi, la porte d'entrée à laquelle je crois le plus, c'est l'envie du dirigeant. À un moment donné, face à tous ces freins, de dire, et malgré tous ces freins, je choisis l'aventure.
Ouais, c'est chouette, ça. Et ça, c'est purement individuel. C'est quelque chose qui doit se passer dans ses tripes, dans son cœur, avant même son cerveau.
Exactement. Ouais. Et puis, après, d'embarquer les autres. On a, je crois, tous une soif d'aventure. Je me souviens, récemment, j'étais devant un parterre de 200 dirigeants. C'était aux États-Unis, où j'habite. Pas du tout des gens qui étaient ouverts à la transition écologique. Et j'ai commencé par dire, mais... Voilà, on peut se féliciter. Voilà, si 200 personnes, vous avez tous réussi, probablement, au-delà de toute attente, à vous retrouver à la tête de vos structures. Donc, félicitations. Et en même temps, je me demande, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sentent un peu floués, qui en espéraient plus ? Est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui, secrètement, rêvaient d'un peu plus d'aventure ? Et je lève ma main comme ça, et 200 mains se sont levées. Mais tu sais, pas d'un coup, mais lentement, tu sais, ben oui.
En regardant fait, le voisin de gauche et le voisin de droite,
exactement.
Tu sais.
En fait, 200 dirigeants qui s'avouent qu'ils ont envie d'un peu plus, d'aventure.
Ah ouais, alors l'aventure, ça y est, tu la proposes avec The Week, tu dis...
Et voilà, exactement. Et c'est de dire, voilà, on fait tous face à des défis extraordinaires, dont des défis planétaires, climatiques, environnementaux. Et la plupart d'entre nous choisissons de jouer le jeu à minima. Ben oui, voilà, il faut cocher un certain nombre de cases au niveau développement durable, etc. Je vois de plus en plus de dirigeants qui ont des enfants qui ont honte de ce que font leurs parents. Des enfants qui n'osent plus dire à leurs copains, à leurs copines, à leurs amis que leur papa dirige ou leur maman dirige une grosse structure. Et face à ça, ben on a deux choix. On a le choix de vivre une vie un peu dissociée, où au travail, on continue à bien maximiser le ROI, etc. Et puis à la maison, on s'excuse un peu de ce qu'on fait, on se dit que...
Voilà. Mais il faut bien faire vivre la famille.
Il faut bien faire vivre la famille, voilà, ouais. Ou alors, à un moment donné, on choisit l'aventure. De se dire, voilà, il y a un défi extraordinaire. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va célébrer ceux qui auront osé. Et on ne sait pas comment ça va marcher, et on va prendre des risques. Et voilà, je te vois sourire parce que qu'on parle de ça...
Parce que ça me parle, ouais, évidemment, bien voilà. Sûr. Ouais.
Et donc, moi, j'ai envie d'inviter les dirigeants à une conversation là-dessus. Qu'est-ce qui vous rendrait fiers ? Qu'est-ce qui ferait que dans 10, 20 ans, 30 ans, vous regardez vos enfants, vos petits-enfants, et qu'ils soient fiers de vous ? Et puis, osons parler aussi de ce qui nous fait peur. Tu vois, osons parler du fait que, ben, est-ce que si je vais trop loin, est-ce que je vais prendre des risques ? Est-ce que je vais perdre mon boulot ? Est-ce que je vais me faire sortir par le système ? Mais osons en parler. Plutôt que de faire semblant que ces sujets n'existaient pas.
Mais on va en parler des émotions, parce que c'est très, très important dans cette proposition d'aventure, comme tu dis. Alors, pour justement sortir du fameux « on a toujours fait comme ça hein, », et pour donner envie à tout un chacun d'oser faire autre chose, donc toi, tu as cette proposition qui est The Week. Parlons de The Week, qui est un outil puissant, et disons-le, un peu beaucoup déstabilisant, hein, qui fait passer par tous les états. D'abord, le fait de prendre conscience de notre impact, c'est un peu... ouais, c'est fort. On aime bien se cacher derrière notre petit doigt, je pense, chacun à son échelle. Et puis de comprendre à quel point on va dérouiller, littéralement, nous et d'autres, encore pire. Et là, ça donne une forme de honte et d'accablement. Et enfin, ça invite à sortir du sentiment d'impuissance individuelle, à dépasser l'éco-anxiété aussi, en invitant à participer à une action collective. Alors j'avoue, nous, on a fait, c'est-à-dire on a vécu The Week dans ma petite entreprise, donc chez Look Sharp. Ça nous a quand même fait bizarre, voilà. Même si on est dans ces sujets tous les jours. Enfin, ça fait, nous, on a choisi d'être sur ces sujets de transition. Et néanmoins...
Ça vous a...
Ah ouais, on a pris une gifle collective. Je n'ai pas honte de le dire. Certains d'entre nous ont pleuré de manière très ouverte. En fait, tu vois, moi, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que tu vis ce U plus ou moins fort en fonction de tes lectures, de ta curiosité, de ton envie d'aller au fond du sujet, mais t'en parles pas trop autour de toi.
Exactement. Et donc, The Week est un outil qui permet de se reconnecter autour de ces sujets-là. Et donc, tu as parlé de la claque et des larmes qui arrivent parfois dans cet épisode 1. Mm. Et donc, nous, on en parle en forme de U. Donc, c'est une expérience où, effectivement, d'abord, on va aller regarder les constats de qu'est-ce qui va nous tomber dessus au cours des 10, 20, 30 prochaines années au niveau climatique, environnemental. Et pour certaines personnes, même des personnes qui sont déjà très au fait de ce sujet-là, ben, on se reprend une claque. Mais ça, c'est juste le début. Donc oui, peut-être qu'il faudrait reconstituer.
Parce que tu... Voilà, explique bien comment ça marche, c'est quoi le principe. Voilà.
Donc le principe, c'est que qu'on l'ait choisi ou non, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, avec des limites planétaires qui sont dépassées, avec des choses qui vont nous tomber dessus au cours des 10, 20, 30 prochaines années, et que je suis très persuadé que mes enfants, que nos enfants, nos petits-enfants, dans 10, 20, 30 ans, vont nous demander « Toi, papa, maman, qu'est-ce que tu savais? Qu'est-ce que tu as décidé de faire ?» Et The Week est né de cette envie de pouvoir leur répondre « Eh bien, j'ai osé regarder la chose en face, et je me suis mobilisé, et je me suis mobilisé avec d'autres, et on a vécu une aventure extraordinaire, et on a évité le pire, et on a fait naître des choses extraordinaires. » Voilà, ça, c'est la réponse que moi, j'ai envie de pouvoir donner, et que je crois que tout le monde a envie de pouvoir donner. Et moi, jusqu'il y a 4 ans, ma femme et moi, on savait bien sûr, quelque part, toutes ces choses qui se passaient, mais on n'était pas dans le déni, mais toujours dans un mode un peu de protection. Tu sais, on voyait un article passer sur le sujet.
Tout le monde reste un peu dans sa bulle, c'est effrayant quand
même. Voilà, c'est effrayant. Donc tu vois un article passer, tu lis les quelques premières lignes, et puis moi, on le mettait de côté en disant « bon, pas sûr de vouloir... » Parce que tu te sens petit, tu te sens impuissant. Et on a voulu créer un outil qui permet de façon... très facile à organiser, de permettre à des groupes de personnes, donc ça peut être toi avec tes amis, ou avec ta famille, ou dans ton lieu de travail, ou voilà, quel que soit le groupe, peut-être une paroisse, ou quel que soit le groupe qui est important pour toi, de se retrouver entre amis et de faire face à ça ensemble, et de décider collectivement, du coup, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se retrousse les manches pour que dans 10, 20, 30 ans, on puisse être fier de ce qu'on a fait. Et donc, en pratique, on se retrouve donc 3 fois au cours d'une semaine, d'où le nom de The Week, toujours en groupe, donc ça ne peut pas se vivre seul. Donc, imaginons, prenons le cas d'une entreprise. Il y a aujourd'hui des milliers de groupes qui ont vécu The Week en entreprise. On se retrouve 3 fois au cours d'une semaine, chaque fois 1h30. Et on regarde d'abord un documentaire pendant 1 heure ensemble qui nous amène à travers ces 3 épisodes à vivre ce U émotionnel. Donc descendre, mais puis après remonter pour en sortir boosté et énergisé. Et donc chaque fois un film d'une heure. Et puis on propose un format de conversation, d'échange, pour faire sens de ce qu'on a vécu ensemble. Et c'est un format très simple, mais très puissant, parce qu'on propose qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'il n'y ait pas, de discussion un peu stérile. On propose de ne pas monter dans des étages... un peu philosophique, où on essaie d'avoir raison, mais simplement de partager qu'est-ce que ça nous a fait vivre, qu'est-ce que ça a fait monter en nous. Et donc ça amène des conversations très simples, mais très belles, très profondes. Le nombre de fois où j'ai reçu des messages qu'en entreprise, on ne s'était jamais parlé pour de vrai, de cette façon-là. On a des gens en entreprise, alors c'est souvent des responsables de développement durable qui s'en emparent, mais parfois c'est des RH en disant, c'est le meilleur outil de team building qu'on a, parce qu'on se parle enfin pour de vrai sur des sujets, sur des sujets très importants.
Et c'est assez intime. C'est vrai que c'est délicat, parce qu'on peut se dire en entreprise, je ne peux pas amener cet ovni-là, parce que y a quand même, tu viens en entreprise, tu te caches un peu, tu vois, et là, tu ne peux pas. Enfin, je trouve que c'est osé.
C'est osé, et au début, on n'était pas sûr. On se demandait, est-ce que les entreprises allaient embrayer, est-ce qu'elles allaient programmer The Week, et on était très positivement surpris. Parce que le format n'oblige à rien. Donc, si dans ce tour de partage, tu as envie de partager des choses très profondes, tu peux le faire. Ouais. Mais il n'y a aucune obligation. Tout le format est se veut le plus respectueux possible. Mais en fait, ce qu'on entend, c'est des vraies formes de soulagement. En fait, c'est vrai que très souvent en entreprise, on porte un peu un masque professionnel, mais ça ne nous rend pas très heureux.
Non.
Et donc, d'avoir un espace où, entre collègues, on se dit vraiment les choses, tu sais, où on se dit, tiens, c'est pas face à ces questions fondamentales, mais intimes, de se dire, tiens, comment est-ce que dans 10, 20, 30 ans, je serai fier ? Qu'est-ce que mes enfants vont me demander ? Et puis de voir, tu vois, tu as partagé quelque chose, et puis un collègue commun va partager, et puis tout d'un coup, ah ben en fait, c'est OK, en fait, on peut parler alors, simplement de ces choses-là.
C'est vrai qu'il y a un effet d'entraînement très, très intéressant à observer, parce que t'as des personnalités qui vont se dévoiler alors qu'on ne les entend pas d'habitude, parce qu'on a différentes façons de réagir. Moi, j'ai vu des gens se renfermer un peu, en disant, attends, mais là, tu viens me chercher, c'est pas la place. Et puis après, ils ont été embarqués. Mais ouais, c'est surprenant. Et j'aurais souligné l'énorme importance de l'émotion comme levier dans The Week. Parce que on a posé quelques mots sur ces émotions. Et ça se sent que c'est évidemment voulu. Est-ce que toi, tu as conçu avec Hélène ce format parce que justement, vous avez fait le constat de la limite du rationnel, ce qui est aussi quelque part ce qu'on entend quand tu vois les scientifiques qui n'en peuvent plus de s'époumoner, qui finalement s'énervent ou se rebellent ou veulent sortir ou se gluent une main sur une Porsche. Parce qu'à un moment donné, tu, avec ta façon à toi de sortir tes émotions, tu constates que ça, c'est pas suffisant, le rationnel. C'est ce que toi, tu as ressenti.
Alors, le rationnel et les informations sont tout à fait nécessaires. Et ça nous tenait à cœur dans The Week, tout ce qu'on
c'est
partage.
Très sourcé.
On a des pages de notes de bas de page, enfin de films, pour ceux qui veulent aller plus loin. On avait un petit comité scientifique qui a tout validé, donc tout ça reste est fondamental. Mais oui, je crois que ça n'est pas suffisant. Moi, toutes les personnes que je connais qui se sont vraiment mis en chemin, qui justement ont décidé qu'ils allaient vivre une aventure, qu'ils allaient transformer leur entreprise, sont tous des personnes qui, à un moment donné, ont été touchées au cœur et dans leur trip. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ça, et même qu'on ne veut pas faire l'économie de ça. C'est une vie un peu triste dans laquelle, laquelle on ne vit que dans le haut de sa tête. Et donc, à nouveau, voilà, avec The Week, on n'oblige à rien. Mais on partage simplement, voilà, quand on vit ces constats, voilà ce que ça nous a fait vivre. Voilà, dans le film, il y a 9 très belles personnes, des héros ordinaires, qui ont osé se frotter à ces questions-là, qui ont vécu une forme de deuil à un moment donné, mais qui en sont ressortis, boostés, remplis de clarté, avec une envie d'en découdre. Et ces personnes-là partagent ce que ça leur a fait vivre en toute simplicité. Et donc, à nouveau, il n'y a pas une obligation d'aller dans l'émotion.
Non,
mais c'est une invitation de partager en vérité ce qu'on vit.
Non, puis c'est vrai que le sujet des émotions et les émotions elles-mêmes sont sciemment gommés des décisions économiques, ou en tout cas en théorie, hein, parce que les décisions économiques sont censées être rationnelles. Et c'est vrai que pour supporter en tant qu'humain aux manettes, si tu es aux manettes d'une entreprise, en tant que décideur, supporter d'infliger ce qu'on inflige aux gens, aux vivants, à nous-mêmes au fond, bah, faut sûrement se dissocier de ses émotions et se cacher derrière l'illusion du rationnel, c'est bien confortable. Mais alors qu'en fait, si la branche sur laquelle on est assis, c'est tout sauf rationnel. Mais les émotions restent tabou. Et voilà, justement, un scientifique qui s'énerve va être traité d'irrationnel. Donc c'est vraiment une approche exploratoire, y compris de ces émotions.
Et tu sais, quand on parle d'émotions,
ouais.
Comme on vit dans une société qui a souvent du mal avec les émotions, hein, certainement dans l'entreprise, on pense tout de suite à des émotions fortes. Tu sais, on pense à la colère, et puis on ne veut pas de colère dans les réunions parce que ça fait dérailler les réunions, on pense... on ne veut pas montrer de faiblesse devant ses collègues, mais il y a toutes les émotions simples, subtiles du quotidien. Tu sais, la joie, le soulagement.
L'enthousiasme.
Voilà. Et par exemple, le retour qu'on a eu systématiquement quand on avait fait des versions test, tu sais, tout un temps, on a testé The Week, on a eu plus de 5000 personnes parce que la version test est déjà devenue virale. Et donc, on a beaucoup écouté des personnes qui avaient des conversations en groupe à la fin de l'épisode 1. Donc, l'épisode 1, c'est cet épisode un peu plus difficile, hein, là où tu te prends la claque. Et systématiquement, quand les gens savaient que Hélène et moi, on participait, on écoutait leurs conversations, ils tenaient à nous remercier à la fin en disant... Donc, on parle à nouveau de l'épisode 1, en disant « Waouh, purée, qu'est-ce que c'était brutal. Merci. » Tu vois, et au début, je ne comprenais pas ce, tu vois, d'où venait ce merci. En fait, les gens exprimaient simplement un soulagement. En fait, on sait bien que ces choses-là existent. On sait bien que c'est mal emmanché quand il s'agit du climat, de la pollution, de la perte de la biodiversité. Mais on nous demande tout le temps de faire semblant que ça n'existe pas. Tu vois. Et en fait, mettre à distance constamment ces sujets,
c'est épuisant.
Et donc, il y a un soulagement. Et donc, tu vois, voilà une émotion comme le soulagement. Mmh. Bah, quelle magnifique émotion qui a toute sa place, tu vois, en entreprise. De, voilà, le soulagement. Ben voilà, on a osé, entre collègues, regarder ce sujet en face. Et puis, on va décider ce qu'on va en faire.
Ah, mais c'est puissant. Mmh. Et on est d'accord, le sujet de la posture économique que l'on entretient collectivement, malgré ses limites, c'est une question éminemment politique. Alors, j'ai une question un peu naïve et directe. Est-ce que tu as fait vivre The Week à des grands décideurs publics et politiques ?
Alors, pas encore. On a des premiers exemples. On a juste lancé ça il y a quelques temps. Et je sais qu'en Allemagne, il y a un parti politique qui s'en est emparé, qui fait vivre ça. On sait qu'il y a quelques communautés locales, une ville qui veut le programmer. Donc, on voit comme ça des premières bribes. Et tu sais, moi, j'ai plein de compassion pour tout le monde, mais en particulier pour des dirigeants qui se retrouvent avec des injonctions contradictoires assez extraordinaires.
Coincés, en fait, encore plus coincés que la plupart des gens.
Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Et qui se retrouvent vraiment avec cette injonction, y compris familiale, y compris avec le regard des autres, avec des gens qui viennent manifester sous leur fenêtre. Et donc, eux, tout comme toute autre personne, ben, on a envie de les inviter chaleureusement à vivre The Week pour avoir un espace où on peut se poser cette question, où on peut... Voilà. Donc, à la fin de l'épisode 3, les gens ressortent en général boostés, avec une envie d'en découdre, parce que justement, on ne leur dit pas quoi faire. Une des choses, tu sais, dans l'épisode 3, très vite, on montre toutes les choses qu'on peut faire. On donne plein d'exemples de ces 9 personnes qu'on a filmées, etc. Et donc, très vite, la question n'est plus tant « qu'est-ce que je peux faire ?» mais plutôt « parmi toutes les choses que je peux faire, qu'est-ce qui me donnerait de la joie ?»
Oui, quelle est l'action pour moi,
pour
en fait,
moi, ouais, qui va prévenir. Voilà, de quoi est-ce que je manque peut-être dans la vie, tu vois, de quoi est-ce que, quels sont les talents que je pourrais mettre à contribution. Et ce qu'on entend, c'est, pour énormément de personnes, c'est la première fois qu'elles entendent parler de sujets climatiques, environnementaux, pas sur le ton de « il faudrait », pas sous le ton de « sacrifice », mais sous le ton de qu'est-ce qui me donnerait de la joie, qu'est-ce que j'ai à contribuer, oui. Qu'est-ce qui rendrait la vie
plus
riche. Et
pas une nouvelle injonction aussi. Exactement. Parce que ça, les injonctions descendantes, surtout de la part de gens qui eux-mêmes entretiennent des contradictions monumentales, c'est un peu difficilement acceptable et entendable.
Et donc, je pense que même pour des dirigeants politiques, économiques, on a eu quelques CEO, quelques patrons qui ont vu ça, et ça a fonctionné parce qu'on leur dit pas quoi faire, mais on les met en position de force en disant, tiens, chacun d'entre nous avec notre sphère de pouvoir, et certainement si tu as une grande sphère de pouvoir, qu'est-ce que tu pourrais faire?
Oui, et puis c'est un projet de leadership. Quel est le rôle du politique pour toi, du récit de ces nouveaux imaginaires qui pourraient porter dans la mutation de la société que tu appelles de tes voeux?
Écoute-moi, en penchant un peu sur l'histoire, j'ai compris que les grandes mutations, tu sais, quand on est passé d'un monde féodal à un monde où l'idée de la démocratie s'est imposée en juste quelques décennies, tu vois, quand on est passé d'un monde où la place de la femme était secondaire à tout d'un coup un monde où les femmes avaient le droit de vote, avaient le droit d'ouvrir enfin un compte en banque, avaient le droit de travailler, etc. Quand on regarde ces grandes mutations de société, on se rend compte qu'elles ne sont pas venues d'en haut. C'est pas le roi qui a décidé que la démocratie était une bonne idée. Ce sont des mutations qui sont venues quand, à un moment donné, une masse critique de la population a arrêté de croire, d'adhérer à certains anciens narratifs, et à la place, s'est passionnée pour des nouveaux narratifs. Et tout d'un coup, pendant tout un temps, on a l'impression que rien ne bouge, et puis tout d'un coup, on atteint cette masse critique, et les changements arrivent bien plus vite que ce qu'on imagine. Et c'est là le moment où les politiques ont tendance à embrayer. Quand les politiques sentent, parce que voilà, eux aussi sont touchés par l'air du temps, comme nous tous.
Oui, mûs par. Oui, bien sûr.
Et donc moi, je pense qu'on a tort d'attendre que ce soit nos hommes politiques, nos femmes politiques qui prennent les décisions pour nous, parce qu'ils sont rarement en avance. Mais par contre, quand tout d'un coup la masse critique est là et que l'air du temps change, eux sautent sur la brèche et alors les choses s'accélèrent.
Et alors, comme on est en entreprise, comment est-ce que tu fais le lien entre The Week, donc, qui peut être vécu par des collaborateurs, voilà, et amené par un collaborateur, d'ailleurs, dans l'entreprise. Comment tu fais le lien entre The Week et le sujet du modèle de gouvernance et des modèles d'affaires à revoir dans l'entreprise ? Dans la multiplicité des choses que tu peux prendre à bras-le-corps quand tu as cette envie d'en découdre, comme tu dis, comment est-ce que ça peut se passer en entreprise, concrètement, ou comment est-ce que tu l'imagines ?
Écoute, dans les deux cas, les choses peuvent venir par en dessous. Quand on voit The Week, tu vois, on a des cas de The Week où c'est le DG, la DG qui a invité toute son organisation à le vivre. Alors, ça, c'est une invitation qui vient d'en haut. On a des cas où c'est des responsables de développement durable qui utilisent The Week pour sensibiliser. Et puis, on a des cas où c'est beaucoup plus grassroots. C'est un middle manager ou une personne qui simplement crée des groupes. Et voilà, tout ça est possible. Je crois que ce qui relie les deux questions, c'est de la transformation managériale et puis la transformation des business models, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas se décréter. C'est quelque chose qu'on peut simplement éviter. Je pense que tous ceux qui ont essayé de faire une vraie réinvention managériale en obligeant, en faisant des plans qu'on déroule, se sont plantés. De la même manière, quand il s'agit d'une vraie transformation des business models, quand on essaye de se dire, tiens, on va aller vers du régénératif, ça ne peut pas se décréter en top-down avec des plans à l'ancienne. Alors oui, ces plans ont toute une raison d'être, tu vois, si on veut décarboner, à un moment donné, il faut tout mesurer, il faut avoir des plans. Mais fondamentalement, on parle de transformations tellement belles, tellement profondes, d'aventures humaines, qui se font par invitation.
Donc ça soit des tests, des tentatives, des...
Oui. J'ai un héros, c'est Ray Anderson, qui était le fondateur et longtemps le dirigeant d'une boîte qui s'appelle Interface. Il a créé cette boîte depuis rien. Il est devenu le numéro un mondial de la moquette. Ceux qui font les petits carrés de moquette qu'on voit dans le bureau. Ben voilà, ici dans le bureau.
C'en est peut-être.
Et donc, il a été un capitaine d'industrie célébré. Et c'est à 60 ans qu'il a eu tout d'un coup son déclic, c'est en lisant un livre environnemental. Et il raconte que c'est vraiment là que la plus belle partie de sa vie a commencé, parce que c'est là qu'il s'est lancé dans une aventure, en disant, en fait, tout d'un coup, mon business, si je suis honnête, c'est d'aller extraire des millions de litres de pétrole pour les transformer dans une masse infâme de nylon, de fil nylon, pour en faire des carrés de moquette qui vont durer 5 ans, 10 ans, puis qui vont terminer la décharge. Et en fait, ce business dont j'étais tellement fier, ce troisième enfant, il disait, mon troisième enfant, après mes deux enfants, c'était mon troisième enfant. En fait, je n'en veux plus sous cette forme-là. Et du coup, il a eu cette vision folle de dire, en fait, je ne veux plus faire que des choses qui soient complètement circulaires, pour ne rien extraire.
Et ça aussi, c'était très visionnaire.
Et puis devenir, mais alors, comment est-ce que tu fais ça? Il n'y avait personne qui avait de réponse à l'époque. Donc on parle de quelque chose qui a commencé il y a plus de 20 ans.
Ouais.
Personne n'avait de réponse. Et ce qui me touche chez Ray Anderson, c'est qu'il a choisi d'en faire une aventure plutôt qu'un plan. Et il a invité toute son organisation en disant, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux qu'on devienne circulaire. Mais j'ai aucune idée comment y arriver. J'ai besoin de vous.
Donc ça, c'est une forme d'humilité monumentale aussi. Mais ça, c'est contraire. L'humilité n'est pas la caractéristique principale des leaders. Ils sont plutôt déviants sur ce sujet-là.
Je suis d'accord, mais quel soulagement.
Ouais.
Quand tu parles à la plupart des leaders, en fait, cette pression de tout le temps avoir toutes les réponses. Et quand j'en parle avec eux, c'est de dire, il reste tout un domaine sur lequel vous avez toutes les réponses. Voilà, tout votre domaine du business as usual. Voilà. Et à côté de ça, maintenant, vous avez la possibilité d'avoir un domaine qui est l'aventure sur lequel vous n'avez pas de réponses. Et sur lequel vous allez demander de l'aide et inviter les gens. Et tous les dirigeants que je connais qui ont invité leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, en disant j'entrevois cette aventure, et personne n'a de réponse. C'est pas que je suis bête, c'est que personne n'a de réponse. Comment est-ce qu'on transforme ce business model, ce modèle d'affaires? Comment est-ce qu'on va vers du régénératif? J'ai besoin qu'on l'invente tous ensemble. Tout le monde répond à l'appel. Personne ne voit ça comme un signe de faiblesse. Personne. Tout le monde voit ça comme un signe de force, en se disant « Waouh, qu'est-ce que je suis content d'avoir ce patron-là ». Tout le monde en parle autour de soi.
Ouais.
Moi, je connais des patrons comme ça qui, après avoir vécu une aventure comme ça, ont quitté leur entreprise et ont reçu, j'ai un ami qui a reçu 1500 messages. non seulement de collaborateurs, mais de maris ou de femmes de collaborateurs, d'enfants de collaborateurs, parce qu'il a fait vivre une aventure humaine qui est extraordinaire.
Non, c'est vrai que c'est quand même autre chose comme médaille à avoir à la fin de ta vie professionnelle que d'avoir fait vivre une aventure à des gens.
Oui, exactement. Et donc, Ray Anderson, malheureusement, est décédé il y a quelques années. Mais la plus belle partie de sa vie a été cette partie-là. Et donc, c'est vraiment important. Tu sais, on a tellement une tendance à aller vers des extrêmes, vers du blanc, du noir. Et donc, de dire, mais si on vit une aventure, ça veut dire que je n'ai plus de réponse, je ne suis pas légitime comme patron. Mais non, il reste tout le domaine du business as usual dans lequel tu, en tant que dirigeant, tu as les réponses et tu as toute la légitimité. Et puis, tu crées cet espace d'aventure où là, tu demandes aux personnes de venir te rejoindre et dire on va vivre cette aventure. Qui a envie de se lever avec moi pour qu'on découvre ensemble les solutions?
Ouais, c'est canon. Alors, on dit toujours que ce n'est pas la taille qui compte, hein, mais avec le livre, tu as quand même touché 1 million de lecteurs. C'est fou. Et The Week, tu c'est viral. Donc, est-ce que tu sais un peu combien de gens? Tu disais que déjà, c'est sur plusieurs continents. Toi, tu le pousses aux US. En Europe, c'est bien parti.
Oui, donc on a le storytelling et les personnages que tu vois à l'écran sont européens et américains. Mm-hmm. The Week existe en français. Les films sont en français, les sites web sont en français. Il existe aussi en anglais. Et existera bientôt en allemand. Le site web existe déjà. Les films sont sous-titrés. Je dis ça pour ceux qui auraient aussi des filiales en Allemagne.
Bien sûr.
Donc voilà. Donc on s'est focalisé sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc le storytelling. Donc voilà. Et voilà, ça démarre vraiment bien en France. Là, ça démarre bien en Allemagne. Je crois qu'on doit avoir dépassé les 40 000 inscrits. Donc ça démarre
chouette,
vraiment bien.
Ouais. Et puis ça va infuser, comme on dit. Et quels sont tes projets ou peut-être tes conseils pour entraîner plus de monde encore? Et qu'est-ce qui pourrait aider en particulier les responsables RSE qui nous écoutent et qui, au quotidien, travaillent pour faire évoluer la façon de créer de la valeur dans l'entreprise, pour aller vers des modèles plus compatibles avec les limites planétaires, et qui ont besoin de clés, clairement. Comment est-ce que peuvent... au-delà de faire The Week, hein, tout le monde doit faire The Week. Non, mais est-ce qu'un directeur RSE peut inviter à l'aventure, lui aussi?
Oui, on a des cas comme ça de responsables RSE qui ont invité leur COMEX. L'autre jour, j'ai eu un cas de quelqu'un qui m'a raconté qu'elle avait invité, c'est une moyenne entreprise familiale, qu'elle avait invité à la fois son COMEX et son conseil d'administration à vivre The Week ensemble. Et alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que tout le monde vit ça ensemble, et là, les conversations...
Là, habituellement, eux font partie des freins, voilà. Donc tu les invites directement.
Voilà. Donc ça peut se faire comme ça. Dans d'autres cas, ils invitent... Il y a différents modèles. On a des entreprises où les responsables RSE invitent vraiment toute l'entreprise avec un modèle d'opt-out, comme on appelle ça. C'est-à-dire tout le monde est invité, mais on n'oblige personne. Parce qu'on leur explique que voilà, on va vivre en U, c'est une expérience qui est forte. Et donc si, pour une raison ou une autre, dans votre vie, pour le moment, ce n'est pas le bon moment... Par rapport à ça, ben, vous n'êtes pas obligé de venir, mais sinon tout le monde est invité. Donc voilà, c'est un modèle opt-out. Ouais. Tu as un modèle aussi opt-in qui est de dire voilà, c'est une formation qu'on rajoute, tu vois, et on laisse diffuser la chose naturellement. Donc il y a toutes sortes de modèles, mais c'est certain que pour les responsables de développement durable, en tout cas ceux à qui j'ai parlé, j'ai plein de respect et d'admiration, et j'ai envie de célébrer le travail que vous faites parce qu'il n'est pas facile, parce que vous vous retrouvez comme d'autres avec des injonctions contradictoires parfois, et que je sais que certains se sentent un peu seuls à porter ces sujets-là. Et donc The Week est un outil qu'on a dessiné pour ça, pour que vous vous sentiez peut-être moins seul en invitant des collègues ou même très largement l'entreprise, et tout d'un coup on a beaucoup d'énergie qui remonte. Et alors là, l'idée c'est. Voilà, vous pouvez déjà le tester en petit, faites un pilote, faites un test, faites-le avec quelques collègues sur l'heure du midi, en invitant idéalement des personnes qui ne sont pas déjà convaincues, pour que vous voyez comment ça les touche. Et puis, vous pouvez déterminer, en fonction des résultats, si et comment vous avez envie de le diffuser. Sachant que ce n'est qu'un début, il y a pas mal d'organisations qui choisissent, après les 3 épisodes, de rajouter un 4e, donc les gens sont très profondément touchés, ont envie de se retrousser les manches, et d'avoir souvent une 4e rencontre pour focaliser, canaliser cette énergie qui ressort vers des projets, soit des projets existants RSE qui peuvent être accélérées, qui manquaient de ressources, en disant ben voilà le catalogue, venez vous brancher sur l'existant, soit à créer carrément des espaces où des nouvelles initiatives naissent.
Ben c'est ça, et puis de revoir la raison d'être s'il n'y en a pas encore, de l'entreprise, de revoir le projet collectif, clairement. Et je voudrais te demander, parce que évidemment, tu as reçu beaucoup de feedback des avant-après, de personnes, d'entreprises. Et on entend beaucoup cette notion de grande démission, de gens qui n'en peuvent plus. Et on le voit aussi, alors je sais que c'est sans doute parce que c'est pas mal médiatisé, mais néanmoins, les étudiants qui sortent de grands cursus, qui se disent qu'en fait, c'est pas du tout adapté à la vie qu'il va falloir mener quelque part. Et voilà, est-ce que toi, de ton expérience, The Week, ça transforme ou ça met un tel coup de pied au derche que tu te dis ok, bah j'y trouve le courage pour ne pas pour dire non peut-être.
Écoute, on a dans les quelques milliers de personnes là qui ont vécu The Week en entreprise, on n'a pas vu de Great Resignation de ces personnes-là.
Tant mieux, parce que sinon ça va être difficile de le promouvoir en entreprise. Ok. Ouais.
Non, c'est plutôt parce qu'on insiste vraiment dans le troisième épisode, tu sais, c'est celui qui donne de l'énergie, qui remonte. On dit, il y a toutes les choses que tu peux faire dans ta sphère privée à la maison, il y a les choses que tu peux faire dans tes communautés, avec tes amis, et puis il y a tout ce que tu peux faire au travail, et puis dans l'activisme et au niveau politique. Et donc, on insiste beaucoup sur tout ce que tu peux faire au niveau du travail en disant, tu as là un champ d'exploration, tu as là des leviers de pouvoir que tu peux utiliser. Voilà, tu vois, si moi je réduis du plastique à la maison et que j'essaie de faire, c'est super, mais dans mon entreprise, je pourrais potentiellement, si c'est ça mon métier, me réduire des milliers de tonnes de plastique. Oui. Et donc, plutôt que de voir l'entreprise comme un frein, c'est de se dire, voilà, j'y vais à fond. Et puis, si ça ne marche pas, j'aurai toujours le temps, dans un an ou deux ans, de me dire que je mets mon énergie ailleurs.
Non, mais c'est clair, et je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Quand on se dit, en tant qu'individu, je pourrais manger moins de viande et mieux trier mes déchets, mais en réalité, c'est en entreprise que tu as potentiellement un impact monumental. En fonction de ton poste, tu peux tout revoir.
Exactement, et c'est parfois dans ton entreprise, c'est parfois dans ta supply chain, c'est parfois chez tes clients. On a un bel exemple comme ça, un des premiers qui a vécu The Week est une personne qui est DG d'une petite structure de 40 personnes qui fait du conseil dans le domaine bancaire. Donc c'est 40 consultants dans le domaine bancaire sur des questions principalement de régulation, donc des questions assez techniques. Et il a vécu The Week, a été très touché, l'a amené dans l'entreprise et a invité l'ensemble des 40 collaborateurs et collaboratrices à vivre The Week. Et donc, tu t'imagines, quand toute l'entreprise vit ça, tu vois, tout le monde passe par l'épisode 1, tout le monde se prend une claque, puis tout le monde déconstruit des choses dans l'épisode 2, puis tout le monde sort boosté dans l'épisode 3. Et du coup, derrière, ils se sont réunis une quatrième fois pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Et ce qui m'a vraiment touché dans leur décision, dans leur histoire, c'est qu'ils se sont rendus compte, en fait, notre levier de pouvoir principal, c'est pas tant de transformer notre propre structure. Oui, on peut peut-être faire des choses au niveau du chauffage ou de l'éclairage.
Voilà. Ouais, mais c'est les clients.
Mais c'est nos clients qui sont des banques. Donc dans leur cas, ce n'est pas leur supply chain, dans leur cas, c'est des clients.
Bien sûr.
On a des relations avec quelques centaines de banquiers seniors. Et en fait, c'est ça notre... Et ils ont trouvé le courage d'inviter entre-temps, je ne sais pas, ils étaient à 100, mais maintenant ils sont peut-être à 150 de leurs clients bancaires à vivre The Week.
Ah ouais.
En disant à ces clients, voilà, vous ne nous connaissez pas trop sur ces sujets-là, parce que nous, c'est de la régulation. Mais en fait, on a vécu The Week, ça nous a tellement touchés, que ça nous paraîtrait bizarre de ne pas le partager avec vous. Et si notre relation vous tient à cœur, on vous invite vraiment à vivre The Week. Et donc, ils ont vécu tout un ensemble de sessions. Et donc, maintenant, voilà des clients bancaires. L'autre jour, j'ai eu une membre d'un comité exécutif d'une des très grandes banques françaises qui avait vécu The Week de cette façon-là, qui a été touchée, qui maintenant change des choses dans sa banque, invite d'autres à le vivre. Et donc, voilà, des effets comme ça, domino, qui sont arrivés parce que cette petite entreprise... De 40 personnes, tu te dis que c'est pas 40 personnes, mais sauf qu'ils avaient accès à leur client bancaire et c'est ça qu'ils ont.
Et ils ont tout de suite compris où était leur impact et leur pouvoir. Donc ça, c'est canon.
Ouais, c'était canon. Et puis une des choses qui m'a touché aussi, c'est que le DG de cette structure, le fondateur de cette structure, m'a dit, tu sais, moi j'ai fait ça parce que c'était la décision pour le climat, c'était ça notre impact principal. Mais en fait, c'est le meilleur outil de business development que j'ai jamais eu. Parce que j'ai des conversations profondes d'un tout autre ordre avec mes clients, tu vois. On parle enfin de sujets qui sont tellement plus profonds, mais du coup, j'ai un lien avec eux que je n'avais pas auparavant.
Complètement, ouais. Parce que tu abats un mur à nouveau très sociétal en entreprise, et puis
un client et un fournisseur, et
voilà,
puis
là, tu deviens intime quelque voilà. part. Donc, non, mais absolument, je n'y ai pas pensé comme ça. Je vais le faire vivre à mes clients. Dans ce podcast, on arrive à la fin. Et évidemment, si tu as encore des choses à nous partager, moi, je trouve que c'est génial, tes exemples, parce que c'est très concret et on voit tout de suite l'application qu'on pourrait en faire. Enfin, chez nous, en tout cas, je vais te dire ce que ça a fait chez nous. Ça a rendu les collaborateurs encore plus exigeants sur ce qu'on accepte de faire ou pas. L'émission qu'on accepte, ouais. Ça les a rendus, mais il n'y a pas photo, ça, on ne peut pas y aller. Point. OK, bon, eh ben, n'y allons pas, vous avez raison.
C'est fort, parce que c'est une des décisions les plus difficiles, en fait. Hein. C'est ouais. la décision de qu'est-ce ouais. que j'accepte comme business, qu'est-ce qui...
Ouais. Voilà. Mais quand on se dit qu'on ne fait du bon boulot que quand on est convaincu par ce qu'on fait, finalement...
Tu me demandais si j'avais des choses à rajouter, ouais. mais une chose qui me venait, parce que là, on a beaucoup parlé dirigeants, responsable développement durable. Une des choses qui m'a touché, parce qu'on l'a voulu comme ça, c'est qu'on a aussi des exemples, alors pas encore beaucoup, parce que de Wic, on vient de le lancer il y a quelques mois, mais de Wic qui s'est diffusé dans des endroits, par exemple chez Decathlon, ça s'est diffusé en magasin, ça s'est diffusé. J'ai un jour reçu un message bouleversant d'un responsable d'un atelier réparation dans un magasin Decathlon. Ils l'ont vécu dans l'atelier des réparations, et tout ce qu'ils ont décidé de changer, de mettre en œuvre dans l'atelier réparation, et donc de se rendre compte que ça marche aux différents niveaux de l'échelle hiérarchique, que ça a marché dans des entrepôts avec des personnes qui n'ont pas fait d'études universitaires. Et donc on a vraiment voulu dessiner de Wic en utilisant un langage très humain, très simple,
ouais, tout à fait.
Qui puisse fonctionner pour que ce ne soit pas un outil élitiste.
Et t'as pas besoin de référence, t'as pas besoin d'avoir lu la synthèse du rapport du GIEC ou des livres de management.
Exactement.
C'est vrai.
Et donc, ouais. Moi, ça me touche beaucoup de voir, voilà, comme ça, t'as un atelier de réparation et qui met toutes sortes de choses en place. Tu sais qu'avant qu'un atelier de réparation soit touché par un plan qui vienne d'en haut, tu vois, il faut déjà y aller. Et donc, ouais. avec cet outil, ils n'ont pas à attendre, et ils peuvent mettre des choses en place.
Et puis après, dans une entreprise comme Decathlon, mais sans doute ailleurs, je pense qu'il y a plus de poids quand un atelier réparation parle à un autre atelier de réparation pour dupliquer quelque chose, une bonne pratique ou une idée, plutôt que la hiérarchie. Donc, bien sûr, la viralité du truc. Alors, donc... nous sommes au bout de ce podcast. Merci à tous ceux qui seront restés, mais j'ai aucun doute que vous resterez pour Frédéric Laloux, bien sûr. Alors, dans ce podcast, il y a deux questions récurrentes. La première, finalement, j'ai l'impression qu'on a répondu tout le podcast à cette question. Mais si jamais tu avais quelque chose à rajouter, parce que c'est une question récurrente, et je dis toujours, quel est ton conseil pour, de manière terre-à-terre ou métaphorique, changer le monde depuis ta chaise de bureau? Évidemment, tu peux regarder The Wic. Mais est-ce que tu as un autre conseil?
De façon générale, je ne crois pas beaucoup aux conseils, mais...
C'est très humble de ta part.
Mais... moi, pour le moment, voilà, c'est ce mot d'aventure...
C'est un très beau mot.
Il résonne pour moi. Et donc, ce n'est peut-être pas un conseil, mais une invitation de se dire, tiens, est-ce que secrètement, moi aussi, je rêve d'un peu plus d'aventure? Et quelle serait une aventure pour moi qui aurait vraiment du sens? Et qui aurait tellement de sens que je serais prêt à prendre un peu de risque, beaucoup de risque en fonction. Donc voilà, peut-être juste une invitation.
Bon, très bien, merci, on y est sensible en tout cas. Et dernière question vraiment cette fois-ci. Frédéric, peux-tu s'il te plaît partager avec nous une œuvre, donc une lecture, un tableau, un film? Alors on a compris que si Ray Anderson t'a touché, c'est sans doute parce que son bouquin t'a touché.
Ouais.
Mais peut-être une autre œuvre qui a fait partie de tes déclics ou qui t'a marqué ou encore qui t'accompagne au quotidien, parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément un déclic dans la vie, c'est une somme d'éveils, mais est-ce qu'il y a une œuvre qui t'est chère ou qui te touche?
Ouais. Alors, tu me dis qui touche, et là, pour le coup, je vais citer un truc un tout petit peu plus cérébral, mais qui m'a vraiment marqué, m'a donné un cadre de référence, qui est une sorte de lunette que j'utilise tous les jours, c'est Ken Wilber, c'est un philosophe américain, Il a créé un livre qui s'appelle « Une brève histoire de tout » en français, « Brief History of Everything ». Et c'est un génie qui a créé, si tu veux, une sorte de méta-framework. Il se demandait, mais tu as tous des philosophes qui disent une chose, et puis leur contraire, tu as des penseurs qui disent, voilà, et puis... est-ce qu'il y aurait une structure globale dans laquelle tout ça aurait sa place ?
C'est le sens de l'univers, quand même.
Quelque part. Donc, il a trouvé quelque part le code source de l'univers. rien que ça. Et donc, voilà, c'est des lunettes qui sont... qui, une fois qu'on les porte, permettent de comprendre le monde. Alors, ça ne donne pas nécessairement une baguette magique, mais en tout cas, moi, ça m'aide à comprendre mieux le monde et à sortir de mes frustrations.
Ouais, j'allais parfois dire peut-être que ça calme
un intérieur, parce que je comprends. Ah ben c'est ça qui est en train de se jouer, c'est ça les enjeux, et voilà.
Mais en tout cas, ça me fait envie. Je vais regarder Ken Wilber.
Voilà.
Très bien. Frédéric, on est au bout de ce podcast et je n'ai plus qu'à te remercier parce que déjà tu nous as mis le pied à l'aventure. Merci.
Écoute, c'était une joie. J'ai vraiment pris plaisir dans cette conversation.
Merci beaucoup.
Voilà, belle aventure à tout le monde qui nous écoute.
Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.